Oui, vous avez raison, mais il n'a pas cessé de les éclairer. Mais est-ce que nous sommes en mesure de comprendre encore la manière dont il les éclaire? Je ne sais pas, il y a des choses qui sont encore très insolites.
Et insolubles.
Paris, 27 juillet 1946. À Peter Watson. Je ne me souviens pas d'être né à Marseille dans la nuit du 3 au 4 septembre 1896, comme le porte mon état civil. Mais je me souviens d'y avoir débattu une question grave, dans un endroit qui n'en était pas un, situé quelque part entre l'espace et un monde sinistre, fortuit, inévitable, grotesque, épouvantablement inexistant. L'espace menait sur une échelle de vie où je ne voyais pas d'interruption à mon être. Le monde sinistre, épouvantable, grotesque, était celui de cette vie-ci. La question que je débattais était de savoir si j'irais à un charnier blanc, si, fatigué depuis toujours d'exister, je me livrerais à ce centre blanc qui, ou si je demeurerais fidèle à cette eau noire, à ce couvercle aqueux d'une caisse d'eau noire qui me retenait obstinément. Cela sentait la merde sur mon cœur, cette caisse avec mon tronc dedans, mais c'était mon moi, l'excrément. La mort n'est pas qu'un état de passage. Elle est un état qui n'a jamais existé. Car s'il est difficile de vivre, il devient de plus en plus impossible et inefficace de mourir. À bien considérer cette vie-ci, je me souviens d'y être mort au moins trois fois réellement et corporellement. Une fois à Marseille, une fois à Lyon, une fois au Mexique et une fois à l'asile de Rodez, dans les transes d'un électrochoc. Chaque fois, je me suis vu avoir quitté mon corps et avoir voyagé dans les espaces, mais pas très loin de mon propre corps, car on ne se détache jamais très bien. Et en réalité, on ne quitte pas son corps. Le corps est un tronc dont on n'est qu'une feuille quand on se rend compte qu'on est mort et qu'on n'est pas dehors mais dedans. Car le mort n'a plus qu'une idée, c'est de revenir à son cadavre, de le reprendre pour aller de l'avant. Mais c'est toujours lui qui vous reprend. Et on obéit parce qu'on est dedans. Et puis, le mort est un être qui ment. Il faut encore souffrir, ce n'est pas le moment, dit la voix de la conscience, qui rêve. Et ceux qui parlent, sont-ils morts ou vivants? On ne saurait plus le reconnaître. Mort, j'ai été pris par la tornade des êtres tous frottés de haine et d'aimant. Cette haine me fit venir une idée que je sentis tourner dans mes oreilles absentes et qui ramenait ma main à mon flanc. Cette idée était que chaque être m'avait fait perdre un événement et que la mort n'était qu'une histoire que j'aurais dû vivre vivant. Mort, on meurt du mauvais côté. Ce n'est pas la voie qu'il faut prendre. Seulement moi, vivant, je ne crois plus à la voie. Et je ne crois pas que les morts y croient et qu'ils aient non plus à en débattre. On n'est pas mort, vraiment mort, quand on suppute ça ou ça. Et cela, cher monsieur Peter Watson, vous intéresse-t-il de savoir comment on est quand on ne suppute pas, vraiment pas? Et ce qui se passe autrement que là, et si on est ou si on n'est pas là? Je ne crois pas que ça vous intéresse. Et quant à ce qui me concerne, moi, voilà longtemps que ça a cessé de m'intéresser. Assez avec les questions et avec les problèmes, avec les problèmes et avec les questions, avec la vie et la pensée, avec la mort et les trépassés. Et ça rime. Non, ne voyez-vous pas que ça rime? Ah, cette vie qui ne veut jamais s'en aller. Mais attendez donc pour penser d'avoir au moins quelque chose à dire, monsieur Artaud. Non. Moi, Antonin Artaud, eh bien non, eh bien justement non, moi, Antonin Artaud, je veux n'écrire que quand je n'ai plus rien à penser. Comme quelqu'un qui mangerait son ventre, les vents de son ventre, par dedans.
Mais c'est pourquoi, Henri Thomas, il me semble qu'il est impossible de ranger Artaud dans une histoire littéraire. Je veux dire qu'on ne peut pas considérer une œuvre simplement du point de vue littéraire, le mettre dans un chapitre comme on mettrait les autres auteurs dans le chapitre d'un livre.
Oui, Il serait possible de le faire en considérant uniquement le langage.
Le langage, oui.
La composition des œuvres d'Artaud. Artaud composait. Artaud avait même été formé par une immense lecture, par une immense méditation sur le mot. Il était très lié avec Jean Paulhan et il suivait très bien cette sorte de réflexion sur le langage.
Oui, mais on a l'impression quand même qu'il n'a jamais douté de la littérature, je veux dire, du pouvoir de ses mots pour exprimer finalement soi-même.
Les mots étaient devenus quelque chose de tellement vivant pour lui qu'il ne pouvait pas en douter. Il se battait avec. Mais il avait une exigence qui était quand même littéraire. Ce n'est pas péjoratif de dire littéraire. Dans ses lettres à Jacques Prevel, il n'est jamais content des poèmes de Prevel. Il dit qu'il faut resserrer. Ce n'est pas assez intense. Il parle comme un maître.
Oui, exactement.
Et c'était un juge impitoyable des manuscrits qu'on lui donnait. Il les jetait. Jamais il n'a approuvé quelque chose de médiocre. Il s'était laissé prendre à quelques collaborations qu'il vomissait plus tard, mais jamais il ne s'est trompé.
Il a collaboré avec Henri Pichette, par exemple.
Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Le fait est que ça s'est gâté assez rapidement. Oui.
Je crois me rappeler un passage où il exprime une sorte de refus a posteriori de
mais
cette
même,
collaboration.
Même pour des choses qu'il avait beaucoup aimées, comme Victor, les enfants au pouvoir, il trouvait que ce n'était plus ça. Évidemment, de ce point de vue, Artaud entre dans la littérature. Mais Artaud mettait la littérature au, si on peut dire, oui, au service, comme un esclave, comme quelqu'un qu'on fouette, qu'on fait turbiner à mort, au service du salut personnel. Un étrange salut, d'ailleurs, qui passait à travers le néant, qui apprivoisait le néant. Mais, évidemment, Artaud dépassait la littérature comme le dernier Tolstoï.
Mais il y a quand même une évolution dans son œuvre, me semble-t-il, parce que si l'on prend des textes comme Elio Gabal ou les Tarahumara, ce sont des textes très écrits, presque au sens même du discours. C'est une admirable langue. Et puis, soudain, vers la fin, et je pense notamment au dernier poème, ça aboutit finalement à des sortes de haïkai, à des mots l'un après l'autre très mesurés, très choisis, et qui ont l'air de rompre avec cette veine quand même très lyrique qu'il a animée tout au long de sa vie.
Oui, à la fin, Artaud oscillait entre deux pôles complètement hostiles. Ce que vous appelez le haïkai, Artaud l'appelait l'aphorisme. Il a écrit de véritables aphorismes, aussi bien, aussi net, aussi fort que du Chamfort ou tel homme du XVIIIe siècle.
Ce matin, moi qui ai tout inventé, j'ai pour la première fois compris la différence entre une sensation et un sentiment. Dans la sensation, on prend ce qui vient. Dans le sentiment, on intervient.
Et puis d'autre part, entre d'autres haïkai imaginaires, alors cela, vous savez, ces syllabes, il les chantait, il les psalmodiait, il les hurlait, il les rythmait surtout. Et ce qui est très net dans cette dernière variété, c'est le rôle des syllabes inversées. Enfin, il introduit une sorte de cadence dans des petits textes où le sens est dans le rythme. Alors là, je crois que c'était des conjurations. Il se mettait à les déclamer au milieu d'une grande souffrance.
Pierre Auster.
Mais il semble, Henri Thomas, que vous ayez une difficulté à nous parler de l'écrivain Antonin Artaud d'avant la guerre. Comment lisez-vous aujourd'hui les textes que Artaud a écrits avant que vous ne le rencontriez ? Parce qu'il y a un Artaud extrêmement organisé qui prépare son voyage et qui là-bas écrit des articles qui lui rapportent de l'argent. Ces articles, on les lit avec beaucoup d'étonnement parce que c'est un homme, en quelque sorte, adapté à l'image. Je dis bien adapté à l'image qu'il se fait de lui-même. Mais enfin, c'est cohérent. Il y a un Artaud qui existe, qui voyage, voyager étant une entreprise difficile, et qui obtient même la complicité des autorités. Il a un papier de l'Alliance française, et il a su prendre un bateau à Hambourg, si je ne me trompe, aujourd'hui. Mais personne ne veut nous parler, à nous qui n'avons pas connu du tout Artaud, personne ne veut nous parler de ce personnage. Beaucoup moins proche de la démence que celui que vous avez connu, fréquenté et aimé.
Oui.
Comment lisez-vous les textes les plus anciens ?
Je ne les lis pas sans penser à Artaud tel que je l'ai connu, car il en parlait de ces textes-là, et il les désavouait.
Ah, il les désavouait. Cela n'est pas dit dans l'édition.
Le mot désavoué n'est pas...
Il désavouait les messages révolutionnaires qu'il adressait à Mexico.
Cela, pas, mais il désavouait...
Aux Mexicains.
Ou il négligeait tout ce qu'il avait écrit... tout simplement pour de l'argent. Par exemple, Elio Gabal, dont vous parliez, il ne pas l'entendre parler, il disait « c'est une commande ». de même sa traduction du moine de Lewis. Et des articles aussi. Il avait le plus grand, je n'offense personne, le plus grand mépris pour le journalisme.
Mais alors c'était les fabrications.
Oui,
et rien de ce qu'il dit dans ces textes-là ne doit être aujourd'hui considéré comme important.
C'est de l'Artaud très, très édulcoré, un petit peu comme les chroniques de Fargue par rapport à ses poèmes.
Quand on le lit maintenant, c'est peut-être d'ailleurs de là que vient le malentendu, il me semble qu'il apparaît à un lecteur qui n'a pas connu cette époque comme quelqu'un de profondément solitaire, dont le chemin est vraiment celui de la solitude.
Il n'écrivait pas pour s'isoler, il écrivait pour entrer en communication avec des vivants, ou des gens qu'il supposait vivants, parce qu'Artaud se maintenait dans un monde où les gens ne mouraient pas, mais disparaissaient, étaient dérobés, étaient victimes de substitution. Il disait, j'ai rencontré André Breton, ce n'est pas lui, on en a mis un autre. Et c'était profondément vrai. De sorte qu'il communiquait autant avec des morts qu'avec des vivants. Ses filles, celles qu'il appelait ses filles, Neneka, les filles du feu, disons.
Mais je crois que l'amour des autres, ce besoin de communication, n'est pas forcément contradictoire avec l'état de solitude. Marthe Robert.
Sa solitude, elle était inimaginable, certainement, à cause de la souffrance qu'il n'a jamais quittée, je crois, depuis sa plus petite enfance. Ce que cet homme souffrait, je crois qu'on pouvait en toute petite partie l'imaginer quand on vivait un petit peu près de lui, à certains moments où vraiment on sentait que son corps se défaisait à force de sensations intolérables. Il souffrait, je crois, de tous côtés, vraiment. Donc, à cet égard, sa solitude était totale. Et aussi, parce que Antonin Artaud n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait partager des idées. Ce que disait Jacques Brenner tout à l'heure est parfaitement vrai. On ne partageait rien avec Antonin Artaud. On le recevait. Et parfois même, on subissait un ascendant que, même si on n'est pas porté spécialement à la mystique et au mysticisme, ce qui est mon cas, il y avait effectivement quelque chose d'assez inquiétant.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, Pierre Oster, à la description de l'œuvre, évidemment, avec l'aide de Paul Thévenin.
Est-ce que nous pourrions maintenant montrer, en quelque sorte, comment se présente l'édition elle-même, puisqu'il s'agit d'une édition critique, dans le sens étroit du terme. Il n'y a pas de commentaires, il y a des articles, il y a des articles de journaux ayant trait à certaines lettres, il y a d'autres lettres que celles d'Artaud lui-même, il y a des renseignements de toute nature, et en quelque sorte c'est toute une époque qui revit quand même, grâce au travail qui a été fourni aux éditions Gallimard.
Je suppose que l'édition a été conçue de la façon suivante. Elle est partie de ce point de vue que la biographie, au sens étroit et conventionnel où on l'entend habituellement, n'apporte rien dans le cas précis d'Artaud, car sa biographie elle-même, il la donne. Ce qu'il veut donner de sa biographie est donné depuis la correspondance à Rivière, ce qui en est l'essentiel, c'est-à-dire la vie ou la non-vie, l'impossibilité à vivre de la pensée. Et dans toute son œuvre, il donne sa biographie, même quand il s'agit du théâtre et son double. C'est sa vie dans le théâtre. Donc cette édition est partie de ce point de vue-là que la biographie au sens étroit, au sens habituel, n'apporte rien. Mais qu'il est nécessaire de donner les renseignements ponctuels qui interviennent dans tel ou tel point de l'écriture d'Artaud et qui permettent d'éclairer tel ou tel point qui, sans cela, pourrait demeurer obscur. D'où les articles de journaux, quand ces articles de journaux sont nécessaires pour donner le climat, parce que il est sûr que le texte d'Artaud est dans son époque, pose des problèmes sociaux, des questions politiques, et que cela ne se sent que lorsque le contexte est donné, c'est-à-dire quelle était l'attitude de la presse, quelle était la manière dont on voyait Artaud à une certaine époque, quels étaient les correspondants qu'il avait en face de lui.
Quels étaient les gens qui prenaient sa défense
Ou ceux qui l'attaquaient. En effet. D'autre part, il est visible qu'il y a dans chaque volume un certain nombre de textes que les gens appellent d'habitude majeurs. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi dans l'œuvre d'Artaud. Il n'y a ni texte majeur, ni texte mineur. Mais disons des textes qu'il avait pu rassembler de son vivant en volume. Il constitue le nœud de chaque volume.
Ils sont présentés sous cette forme. Oui.
À cela ont été ajoutés les textes qu'il a publiés en revue à la même époque, qui concernent un peu les mêmes sujets. Chaque fois qu'il a été possible, les lettres retrouvées d'Artaud, qui correspondaient aux textes, disons, centraux, ont été ajoutées. Alors, évidemment, ça a donné une espèce de chevauchement de la correspondance, puisque ce qu'on appelle les obligations de calibrage ont fait que, on ne pouvait pas donner des volumes trop gros.
Je trouve que là, on atteint un point très important dans cette publication. C'est-à-dire qu'à côté des textes célèbres, des textes finalement que nous connaissions tous sous toute cette table,
comme disait,
il y a toutes ces lettres qui sont finalement la révélation de cette édition. Ces lettres sont parmi les choses les plus prodigieuses qu'a écrites Artaud. Or, on a l'impression que quand il écrit ces lettres, effectivement, il fait son œuvre comme finalement dans tout ce qu'il écrit. Mais pensez-vous que lui-même en était très conscient de ça? C'est-à-dire que est-ce qu'il pensait qu'un jour ces lettres verraient le jour d'une manière imprimée?
Quand Parizeau lui a proposé de publier les quelques lettres qu'il lui avait écrites de Rodez, il l'a lui-même tout de suite accepté. Et il y a plusieurs des lettres à Poland dont il dit « Cette lettre aurait été publiée autrefois par André Breton dans la Révolution surréaliste. Publiez-la, s'il vous plaît. » En effet, dans la Révolution surréaliste, vous trouvez la nouvelle lettre sur moi-même, vous trouvez la lettre à personne dans les cahiers du Sud. La forme lettre a toujours été privilégiée, dont, à vrai dire, le destinataire
importe relativement peu.
Assez peu. Il y a quelques cas, Jenica Athanasiou, par exemple, était Jenica Athanasiou, d'une certaine façon, la personne et ses rapports avec Artaud interviennent plus que lorsqu'il s'agit
de Peter Watson.
Oui, de Peter Watson, qu'il ne connaissait pas, ou à peine.
Alors c'est vraiment la littérature anti-intellectuelle, c'est la littérature malgré elle, presque.
Vous pourriez presque dire que l'œuvre d'Artaud, c'est l'anti-œuvre. C'est une autre des questions que pose cette œuvre. Et ça n'est pas prêt non plus d'être commenté de façon...
satisfaisante.
Non, à mon avis, satisfaisante, non, parce que, je vous dis, les questions sont absolument infinies. C'est le contraire d'une œuvre. Et en même temps, c'est tout de même une œuvre.
Paul Thévenin, il y a, je crois, encore des textes qui ne sont pas publiés d'Antonin Artaud, et notamment Suppôt et Suppliciation.
Suppôt et Suppliciation est le dernier texte composé par Artaud lui-même, de son vivant. Il l'a d'abord écrit, puis, selon son habitude, il en a dicté les principaux éléments qui devaient le constituer. D'une part, à une jeune femme que lui avait envoyée l'éditeur éventuel de l'époque, qui était Louis Broder. Cette jeune femme venait les matins à Ivry, et de son lit, Artaud lui dictait les textes de Suppôt et Suppliciation. Et d'autre part, quand ce travail a été fini, Broder a renoncé à publier ce texte pour des raisons religieuses, je crois. K a pris la relève. Certains textes ont alors été ajoutés, car Tom m'a dicté à moi personnellement et que j'ai remis aux éditions K. Donc, c'est le dernier ensemble de textes composé par Artaud lui-même. Mais il y a une quantité d'autres textes, du reste, il suffit de consulter les revues pour voir qu'il y en a une quantité d'autres, écrits par Artaud en même temps et après Suppôt et Suppliciation.
Paul Thévenin, vous refusez la qualification de témoin privilégié. Vous avez tout de même été témoin d'un événement. C'est l'enregistrement à la radio d'un texte d'Artaud par Artaud lui-même pour en finir avec le jugement de Dieu. Alors j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu.
Ça se passait de manière assez simple, vous savez. L'idée était venue de Fernand Pouet. Il pensait qu'il pouvait donner un micro à Artaud et que ça se passerait très bien, que pourrait dire ce qu'il voudrait. Bon, l'expérience et la suite des événements a montré qu'il s'est trompé. Mais Artaud a tout de suite accepté, parce que quand il est revenu de Rodez, il a toujours voulu avoir le plus grand public possible. Les petites plaquettes tirées à 50 exemplaires, ça ne l'intéressait pas. Il aurait accepté au fond fort bien d'être publié dans... Est-ce que François existait, oui, à l'époque, oui. Il aurait trouvé ça tout à fait normal. Le canal lui importait peu, pourvu qu'il y ait le plus grand nombre de lecteurs possible. Il considérait donc que son histoire, d'une part, appartenait à tous et pouvait enseigner quelque chose à tous. Il n'avait du reste pas tort, à mon sens. Donc il a tout de suite accepté de faire cette émission, parce que cette émission correspondait à un grand nombre d'auditeurs. Ce qui lui a paru évidemment le plus important, c'est de lire des textes où il disait ce qu'il avait à dire. C'est une expression qui revenait souvent chez lui. J'ai beaucoup à dire.
Ici, on attend tout naturellement l'écoute de cette émission d'Antonin Artaud, enregistrée par lui-même à la radiodiffusion française, pour en finir avec le jugement de Dieu. Mais, nous le répétons, selon les accords signés avec les héritiers du poète, il nous est interdit d'en diffuser des extraits. C'est Jean-Luc Moreau qui nous lira les premières pages de ce texte.
J'ai appris hier, il faut croire que je retarde ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit, l'un de ces sales ragots, comme il s'en colporte entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas une fois de plus ingurgités. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines, et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale, ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite avoir lieu. Car de plus en plus, les Américains trouvent qu'il manque de bras et d'enfants, c'est-à-dire non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent, à toute force et par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats, en vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ultérieurement avoir lieu, et qui seraient destinées à démontrer, par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire. Il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver, à l'inertie humaine, un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés, où ce sera le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, où la belle nature vraie n'a que faire, et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement, où le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle fera merveille pour produire des armées et des cuirassés. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à satiété, dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers des atmosphères tirés de force et par synthèse ou résistance d'une nature qui, de la guerre, n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas ?
Ce sont les premières pages de « Pour en finir avec le jugement de Dieu » que nous venons d'entendre. Alors, à défaut de la voix d'Artaud que nous ne pouvons écouter aujourd'hui, Paul Thévenin, vous qui avez participé à cet enregistrement, j'aimerais que vous nous disiez comment cela s'est déroulé.
Une grande partie du travail a été de dicter à la secrétaire de Pouet, je te présente, un grand nombre de textes, tous, malheureusement, n'ont pas pu être utilisés. Après quoi, il y a eu 3 ou 4 séances d'enregistrement, une fois les textes choisis, une fois les interprètes choisis. Dont moi. J'étais très maladroite, mais ça, c'est autre chose. Ben, Artaud m'avait fait travailler. Colette Thomas devait y participer au dernier moment. Elle n'a pas voulu. Maria Cazares l'a remplacée. Elle avait très, très peur. Et Blin l'a fait travailler un petit peu avant, je crois. Mais ça s'est passé extrêmement simplement. Artaud a demandé un certain nombre d'instruments de musique, des gongs, des xylophones, des tambours, des grosses caisses. Et il a lui-même, de manière empirique peut-être, composé, si vous voulez, la musique et le bruitage. Il a enregistré avec Blin un certain nombre de parties anglo-solali, employant ce terme puisque c'est Jacobson qui l'emploie. Ce sont des syllabes qui ne correspondent pas à des mots connus. Et il appelait ça la cage aux singes. Plus un cri extrêmement, là il l'a fait lui-même, extrêmement prolongé. Il a voulu avoir une caisse de résonance et ça a été fait dans l'escalier de la rue François 1er. Oui. Et du reste, c'est toujours alors un phénomène assez surprenant parce que quand on voyait le personnage d'Artaud tel qu'il était après 9 ans d'asile d'aliénés, une maigreur absolument hallucinante, il n'avait plus de dents. On ne pouvait pas imaginer que ce corps avait une pareille force et pouvait être capable de pousser de manière délibérée et tout à fait consciente et dirigée des cris pareils.